Henri de Régnier, La double maîtresse, deuxième partie, chapitre 3. Le carrosse de Monsieur de Portebise rabotait le pavé de la rue Saint-Jacques. Les chevaux tiraient sur les traits. La mèche du fouet touchait en voltigeant leur croupe lisse et sensible où l'effort tendait les muscles. Enfin, les deux bêtes s'arrêtèrent et Monsieur de Portebise descendit. La maison était de petite apparence et de façade étroite, haute, avec ses trois fenêtres par étage. Une sorte de couloir humide conduisait dans une cour carrée de médiocre étendue. Au bas d'un escalier jouait une fillette déguenillée. « Est-ce bien ici que demeure monsieur l'abbé Hubertet ?» dit monsieur de Portebise. La fillette ne répondait pas. Elle n'était point laide, mais ses joues fraîches et barbouillées luisaient toutes crues dans son visage. Elle fit le geste de les protéger d'une de ses mains contre un soufflet, tandis que de l'autre, elle cachait une lettre derrière son dos. À peine engagé dans l'escalier, M. de Portebise s'entendit crier. « Monsieur Hubertet, c'est tout en haut, à la porte peinte !» La porte de l'appartement de M. l'abbé Hubertet présentait un aspect assez singulier. Elle était colorée en rouge-brun et, au milieu du panneau, montrait, dessiné assez grossièrement, un masque antique. Sa grosse face, aux yeux en boule et au nez camard, riait du vermillon aux joues. La grotesque figure faisait Judas. On pouvait voir du dedans par sa bouche grillée. La porte d'ailleurs était entr'ouverte. Monsieur de Portebise, sans autre façon, donna du poing dans le nez du mascaron et se tint sur le seuil sans entrer. On apercevait une assez vaste pièce carrée. Le carreau luisait. Des livres, sur des rayons de bois, garnissait les murs de haut en bas. Une petite odeur d'oignon avertissait l'odorat que la cuisine n'était pas loin et que la nourriture du corps voisinait avec celle de l'esprit. L'appartement devait être assez resserré puisque les parfums du fourneau pénétraient jusque dans la bibliothèque. Monsieur de Portebise fit quelques pas et se mit à regarder autour de lui. Au bas des murs s'alignaient des fragments de vieilles pierres. On trouvait là des débris de chapiteaux où se distinguait encore la volute d'une acanthe, des morceaux de statues et d'autres restes de sculptures, et, dans un coin, debout, en sa corpulence élégante, une grande urne de bronze verdâtre. Monsieur de Portebise, de la pomme de sa canne, frappa la panse rebondie du vieux vase, il en sortit un son mélangé de cloches et de chaudrons, auquel Monsieur de Portebise s'attendait à voir apparaître quelques servantes bougonnes ou quelques bedeaux crasseux. On venait au bruit. C'était une fort jolie personne de 15 ans, brune et vive. Un fichu se nouait à sa taille mince. Son bonnet blanc coiffait une mine spirituelle et naïve. Une courte jupe ronde laissait voir ses pieds chaussés de mules sur un bas à coin. Elle tenait à la main un médaillé et un chiffon de laine. Elle fit une belle révérence à Monsieur de Portebise. Est-ce que Monsieur l'abbé Hubertet n'est point chez lui ? Non, monsieur. Il est sorti, mais je ne crois pas qu'il tarde à rentrer. » Monsieur de Portebise la regardait, surpris de sa jeunesse et de sa beauté. « Ce diable d'abbé Hubertet, se disait-il, doit bien avoir au moins 75 ans. Mais cette petite gouvernante est tout de même inattendue. L'usage les veut laides et vieilles, et celle-ci n'est ni l'une ni l'autre. Point, elle est charmante, les plus jolis pieds du monde et des yeux à vous mettre à ses pieds. Le bon abbé a dû jadis aimer la côte, et je gage qu'il a dû enseigner de curieux principes à feu mon digne oncle Galando. Monsieur semble contrarié de ne pas trouver au logis monsieur l'abbé Hubertet. Il ne le faut point. Si monsieur veut voir le cabinet, je saurai le lui montrer. Certes, monsieur de Portebise ne se sentait en venant aucune envie d'admirer des médailles rouillées, des vases peints, des colliers de bronze et tout ce qui composait le cabinet de monsieur Hubertet. L'abbé était riche en antiques d'assez bon choix. Il remplissait tout son appartement qui consistait, outre la bibliothèque, en deux autres pièces et en un réduit où couchait M. Hubertet dans un grand lit de cotonnade rouge dont le haut édredon semblait une allusion à la protubérante personne du dormeur. M. de Portebise regardait avec distraction les objets que lui désignait la jeune fille. Elle l'intéressait beaucoup plus qu'eux. Comme il commençait à faire sombre, Elle avait allumé un bougeoir dont elle les éclairait. Elle allait ainsi familière et vive, puis courait à la porte, disant « Ah, j'entends le pas de monsieur l'abbé !» pour revenir ensuite vers monsieur de Portebise. « Faites excuse, monsieur, j'ai bien cru que c'était lui, mais il est si lambin, le cher homme. Une fois dehors, il va, sans compter qu'il s'arrête pour parler au premier venu. C'est comme cela, du reste, que je l'ai connu. J'étais toute petite, on m'envoyait chez la laitière. Je rapportais mon petit pot, mais je ne revenais pas tout droit, et je courais avec les polissons du quartier. Je posais mon pot à terre. C'est ainsi qu'un gros chien qui passait s'avisa une fois de boire le lait. Je n'osais plus rentrer, et je pleurais sur la borne devant ma cruche vide. Je serais restée là jusqu'au jugement, sans l'abbé Hubertec qui me ramena par la main chez mes parents. » Au bout d'assez peu, M. de Portebise sut beaucoup de choses sur elle-même par Mademoiselle Fanchon, que l'abbé Hubertet avait fini par prendre chez lui l'orpheline et qu'elle y demeurait depuis 6 ou 7 ans, son père et sa mère morts. Et M. de Portebise admirait que la petite laitière fût devenue cette agréable personne, debout devant lui, qui babillait si gentiment, tout en courant de temps à autre à l'escalier, voire par-dessus la rampe, si M. l'abbé ne se montrait point. M. de Portebise se divertissait fort à tout cela et d'une idée qui le faisait sourire à la dérobée. Où pouvait bien coucher Mademoiselle Fanchon? L'appartement ne contenait pas d'autre lit que celui de l'abbé et M. de Portebise ne pouvait s'imaginer décemment que la jeune fille pût en partager l'oreiller carré et l'édredon rouge avec le respectable M. Hubertet, d'autant plus qu'elle parlait de son vieux protecteur avec une simplicité toute filiale et qui ne laissait rien à penser. Vous ne saurez jamais, monsieur, combien l'abbé Hubertet fut bon pour moi. Il m'emmenait avec lui à la promenade. Quelquefois, il m'oubliait bien dans la boutique d'un libraire, car il était distrait, mais il revenait bientôt m'y reprendre. Quand il me laissait à la maison, il ne manquait guère de me rapporter des cornets de dragée ou des moulins à vent en papier. Je soufflais dessus pour les faire tourner. Alors, il riait de voir mes joues gonflées, et il semblait s'amuser fort d'entendre les bonbons craquer sous mes dents, et, comme il se défendait quand je voulais l'embrasser avec ma bouche toute sucrée. Mais, Fanchon, quand vous étiez petite fille, qui donc vous passait votre robe, vous lavez le visage et vous peignez les cheveux? C'était lui-même, monsieur. Je le vois encore. Il m'apportait une grande cuvette d'eau avec un savon qui moussait. Je criais pour mon nez et mes yeux, et je tâchais de sauver mes oreilles. Puis il prenait mes mains dans les siennes et me les frottait jusqu'à ce qu'elles fussent propres. Il me les regardait jusqu'aux ongles. C'est à lui que je dois le goût de les porter nettes, quoique je n'hésite pas à décrasser les vieilles médailles et à toucher au fourneau. Car M. Hubertet est gourmand, et il est bien juste que je lui rende un peu les soins qu'il m'a donnés et que je tâche d'être serviable à ses manies et utile à ses plaisirs. M. de Portebise commençait à très bien connaître Mademoiselle Fanchon et tout le détail de sa personne. Il y avait en elle je ne sais quoi de léger, de souple et de fin. Cela formait une sorte de grâce juvénile qui fut aisément devenue voluptueuse si un air de franchise et de naïveté n'eût répandu sur elle la charmante fraîcheur de l'innocence qui empêchait véritablement de prêter aucun faux sens à ses propos et de se demander ce qu'elle entendait au juste par les plaisirs de l'abbé. Mademoiselle Fanchon, durant les absences de M. Hubertet, avait souvent répondu aux visiteurs, mais il s'en trouvait peu d'aussi bonne mine que M. de Portebise. Aussi admirait-elle fort les fines dentelles de ses manchettes et l'étoffe brillante de son habit, sans ressentir à cette vue aucun malaise et plutôt flattée de l'attention souriante que le beau gentilhomme prêtait à son minois et à ses discours. « Tout de même, Mademoiselle Fanchon, votre abbé dut être quelque peu embarrassé de vous dans les premiers temps, car vous n'étiez pas encore grande ménagère, si j'en juge par la façon dont vous laissiez boire le lait par le gros chien. » « Oui, monsieur. D'autant plus que j'étais peureuse, peureuse. Le premier soir, il me coucha dans la bibliothèque. La chandelle éteinte, je restais les yeux ouverts. Les vieux livres se mirent à craquer. Les souris leur répondirent. Je les entendais trotter menus, ça et là, tout près de moi. Il y en avait une qui grignotait avec ses petites dents fines. J'aurais crié. Enfin, n'y tenant plus, je me lève pieds nus, en chemise, et je me glisse dans la chambre de monsieur l'abbé, où je voyais de la lumière par les fentes de la porte. Il dormait dans son grand lit. Son gros souffle faisait s'abaisser et remonter le drap qui lui venait jusqu'au menton. Je me rassurais à l'écouter ronfler. Le matin, à son réveil, il me trouva blotti dans un fauteuil. J'avais les pieds glacés et, le lendemain, un gros rhume. Et qu'a dit l'abbé ? Le lendemain soir, je trouvais mon petit lit dressé dans un coin de sa chambre. Pour lui faire place, il avait déménagé ses potiches et ses vieilleries. Ah, le bon lit, monsieur ! Je m'y étendais en me faisant bien longue et je m'endormais aussitôt. Et si je me réveillais dans la nuit, je me rendormais sans peur. Il y avait au plafond une mèche qui brûlait dans l'huile d'une lampe à trois becs. Quelquefois encore, j'avais peur tout de même, mais il suffisait de me lever sur mon lit pour voir M. l'abbé dans le sien et être sûr qu'il était bien là, sous l'édredon. Les pointes du foulard qu'il se nouait autour du front dessinaient sur le mur deux cornes d'ombre. Ah, monsieur, je les vois encore. Vous les voyez encore, mademoiselle Fanchon ? Ah, monsieur, quand j'ai eu 13 ans, monsieur l'abbé m'a mise dans mes meubles. Jugez plutôt. Elle avait ouvert une porte assez bien dissimulée par la boiserie. Et monsieur de Portebise aperçut là une jolie chambre avec des miroirs et un lit drapé. Il m'a dit « Fanchon, te voilà grande, tu seras là chez toi. » Et il me montra la toilette, m'ouvrit l'armoire qui contenait des robes et du linge. Il avait profité pour aménager tout cela d'une petite maladie qui venait de me tenir au lit une semaine et d'où je sortis grandie et formée. À partir de ce jour, je quittais mes galoches de fillette pour des souliers à talons. J'eus ma clé. M. Hubertet me traita en personne sérieuse. Sa familiarité resta paternelle et devint plus délicate. Il frappe avant d'entrer. Pourtant, le matin, quand je dors encore, il arrive quelquefois sur la pointe des pieds. Il croit que je ne le vois point et je le lui laisse croire. Il s'approche en tapinois et me regarde dormir. Il y semble prendre plaisir, monsieur, et j'en suis aise. Car n'est-il point juste que ma couette de nuit et mon visage du matin distraient ses yeux ? Je leur dois bien cela. Les deux cornes d'ombre de son foulard n'ont-elles point assez souvent rassuré mes peurs pour que ma cornette réjouisse sa vue ? Aussi, je m'arrange, quand je l'entends venir, pour montrer, sans en avoir l'air, un rien de mon bras nu et un peu de mon épaule découverte. « Vous parlez bien, Fanchon, et en fissage, et avisé, » dit en riant M. de Portebise. « Et je vois que M. Hubertet peut compter sur votre esprit comme sur votre cœur. L'un et l'autre sont bons. Mais, si heureux que M. l'abbé puisse être de votre compagnie, il ne s'en absente pas moins quelquefois, si j'en juge, par aujourd'hui, et vous laisse seul comme je vous ai trouvé. À quoi pouvez-vous bien occuper vos journées ?»« Mais je danse, monsieur. » Vous dansez fort bien, mademoiselle Fanchon, mais qui donc vous fait vis-à-vis ? Vous avez un amoureux et l'abbé paye les violons. » Mademoiselle Fanchon se mit à rire si franchement et si fort que monsieur de Portebise, sûr au moins de ne point l'avoir offensé, ne se voyait pas loin de se sentir mortifié de cette gaieté. Que non, monsieur, vous n'y êtes guère et ce n'est point ce que vous pensez. Pour tout vous dire, monsieur l'abbé aime la danse. Il va souvent à l'opéra et a pris l'ambition de m'y voir un jour faire figure. Pour m'en donner les talents, il m'a fourni les meilleurs maîtres, et leurs leçons m'ont profité. Il vante mes progrès, et déjà, maintenant, on me confie des entrées et des petits rôles. Mademoiselle d'Amberville, à la prière de M. Hubertet, a bien voulu m'aider de ses conseils. Je ne cesse de travailler pour mériter l'intérêt qu'elle me témoigne, et pour plaire à M. Hubertet. Il aime la danse, et il fait bon d'entendre, monsieur, les belles choses qu'il en dit. Monsieur de Portebise écoutait avec stupéfaction les discours de Mademoiselle Fanchon. Depuis un instant, une forte odeur de roussi se sentait dans l'air. Fanchon courut et revint vite. Elle semblait fâchée et une moue de dépit abaissait les coins duvetés de sa bouche. Voilà, le dîner de monsieur l'abbé brûlait plus qu'à moitié. Ah, mon Dieu ! Et monsieur l'abbé qui ne rentre toujours point. Il y a tant de carrosses par les rues, pourvu qu'il ne lui soit pas arrivé malheur. Sans compter qu'il rapporte souvent des livres plus gros que lui. Elle se lamentait et pleurait presque et tenait des deux mains son tablier dont elle s'essuyait délicatement le coin de l'œil quand on gratta à la porte. La fillette, que M. de Portebise avait vue en entrant au bas de l'escalier, montrait sa figure barbouillée et rouge et présentait une lettre au bout de ses doigts sales. « Donne Nanette, qui t'a remis ça ?»« Un gros laquais. »« Il y a longtemps ?» Tout de suite. Tu mens. Vous permettez que je lise, monsieur ? Fanchonnette, ne m'attends point, je souperai chez mademoiselle d'Amberville. Je te rapporterai des croquignoles et de l'angélique. Tu auras ceci assez tôt pour pouvoir aller chez Monsieur Darledel étudier ton pas. Tu vois bien que tu as menti, Nanette. Pourquoi n'es-tu pas montée de suite? Pourquoi as-tu sali ce billet? Nanette ne répondait pas. Elle tira la langue et la rentra juste pour recevoir sur la joue le soufflet qui appliqua la main leste de Mademoiselle Fanchon. Nanette pleurnichait. « Maintenant, donne ton nez !» dit Mademoiselle Fanchon, devenue subitement maternelle, qui tira son mouchoir et moucha la morveuse. « Et déguerpis !» Nanette dégringola l'escalier. On entendit s'éloigner le galop de ses gros souliers. « Elle est méchante, monsieur, et n'en fait jamais d'autre. Et avec cela, sournoise, monsieur l'abbé a voulu l'envoyer à l'école. Ah, ben oui, elle apportait du crottin dans son panier pour empêcher la classe. Elle passe ses journées dans la cour ou sur la porte. Elle ne rit que quand elle voit un boiteux ou un bossu ou un cheval qui tombe ou un chien battu. Elle fait la nique aux passants. Alors, on la gifle. Elle aime cela. Elle tire des taloches de tout le monde. On finit par les lui donner comme une aumône. Monsieur l'abbé Hubertet lui-même lui en accorde quelques-unes et, comme vous voyez, j'achève le nombre de celles qu'elle reçoit et qui, quoi qu'on fasse, ne dépasse pas celui de celles qu'elle mérite. « Elle aura du bâton de ma part, » dit Monsieur de Portebise, en reprenant sa canne qu'il avait posée dans un coin. « D'autant plus que je me souviens fort bien maintenant lui avoir vu au doigt cette lettre qui m'eût évité de vous importuner si longtemps, mademoiselle, et qui m'eût permis de suite de vous prier de dire à Monsieur l'abbé Hubertet mon regret de l'avoir manqué. » Monsieur de Portebise était debout sur le seuil, juste à côté de cette grande urne de bronze vert où il avait heurté en entrant et, au bruit de laquelle, lui était apparue la singulière petite personne qui maintenant le saluait d'une belle révérence et d'un sourire familier. Monsieur l'abbé se pardonnera mieux de ne se point être trouvé là, monsieur, si vous avez été content de moi. Mais je ne le serai point si je manquais à vous faire remarquer ce vase qui est fort antique et auquel monsieur Hubertet attache un grand prix. Mademoiselle Fanchon avait entouré le flanc de l'urne de son joli bras. Sa main blanche caressait le bronze verdâtre. Elle y appuya sa joue fraîche d'un geste coquet et tendre. Il était sur son socle aussi haut qu'elle et il portait, comme un collier, une pancarte où Monsieur de Portebise put lire cette inscription. Trouvée par Monsieur de Galando à Rome, l'an 1768. La porte refermée, Monsieur de Portebise chercha la rampe à tâtons. « Voilà qui est singulier, pensait-il. Je viens ici pour voir un savant homme qui a connu feu mon oncle et m'en peut renseigner, et je tombe chez un vieux fou d'abbé qui ramasse des petites filles dans la rue, les fait coucher dans sa ruelle et les dresse pour l'opéra. Tout cela mérite peut-être quelque étonnement, mais je dois le dire, m'a au moins fort diverti. » Il continuait à descendre quand il entendit la voix de Mademoiselle Fanchon. Elle se penchait sur la rampe. « Monsieur, monsieur, si vous allez au ballet d'Ariane, ne manquez pas de regarder au cœur des Athéniennes, celle qui porte une guirlande et une colombe, et applaudissez-y, Fanchon, votre servante. » Un éclat de rire clair illumina l'escalier ténébreux, et M. de Portebise, qui avait levé la tête, fit un faux pas où il aurait bien pu se casser le nez et où il risqua de se rompre le cou.